Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Carson here, Nazi. Gun no more good. Take knife, Nazi. Come, Nazi. Here, Nazi. In jungle, strong always win.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés, avec Tarzan, l'homme sauvage, actualité d'un mythe, ouvrage coordonné par Jean-Pierre Andrevon, paru chez Vendémiaire, Ciné Miracle, l'émerveillement religieux à l'écran de Timothée Gérardin, disponible chez Playlist Society, quelques bandes dessinées avec Petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi, paru chez Stenkis, Deceased Unkillables de Tom Taylor, Trevor Scott et Karl Mostert, ainsi que Wonder Woman année 1 de Greg Rucka et Nicolas Scott. Ces deux-là, c'est paru chez Urban Comics. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons la nouvelle salve, les trois nouveaux numéros de la collection Gore des Alpes. On y causera de Vengeance, de François Marais. Et puis, en compagnie de leurs auteurs, on parlera de L'Éventreuse, de Stéphanie Glacé, donc, et Tantine Chevrotine, de Jordi Gabiou. Et pour causer sortie bouquin, pour glosser sur la littérature que l'on aime, je suis accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Eh oui, j'ai tenté péniblement là de refaire le cri de Johnny Westmuller, le fameux cri hein, du Tarzan qui a enchanté ma jeunesse. Hein, ces films que j'adorais. Et puis, quand j'allais me coucher enfant, je me battais contre mon polochon. J'imaginais que c'était le crocodile que Tarzan venait de terrasser. Voilà, je me rappelle que les Tarzans passaient le lundi soir sur FR3. Eh oui, que de souvenirs que ces films avec Johnny Westmuller. En fait, Tarzan, c'est pas que ça. Voilà, ce que nous apprend le livre, coordonné par Jean-Pierre Andrevon. Je sens que Thomas veut me pourrir mon introduction. Voilà.
Colonialiste.
Oui, écoute... toute façon, la prochaine émission sera consacrée aux bienfaits du colonialisme, hein, bien évidemment, hein, tu t'en doutes. Là, on a donc un livre qui s'appelle « Tarzan, l'homme sauvage, actualité d'un mythe », qui est fait sous la direction de Jean-Pierre Andrevon, qui est un livre paru chez Vendémiaire, hein, durant 250 pages. Alors, je rappelle aussi que c'est une extrapolation d'un dossier qui était paru dans l'écran fantastique il y a quelques temps. Là, c'est beaucoup plus développé. Hein. Et dans ce livre, vous allez tout apprendre, tout sur la vie d'Edgar Rice Burroughs, et son œuvre littéraire, parce qu'Edgar Rice Burroughs, c'est l'homme qui a créé le mythe hein, Tarzan, hein, dans une série d'ouvrages assez longue. Et puis, il y a une filmographie, il n'y a pas que ça, mais hyper détaillée. On va des sérioles au Tarzan non autorisé, en passant par, par exemple, la honte de la jungle, hein, le fameux dessin animé de Picha avec Tarzoun, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a un des auteurs qui n'aime pas trop le Tarzan de John Derek avec Bo Derek. Hein, c'est vrai que c'est nul, mais il y a Bo Derek quand même. Donc, bon, quand on est le mari de Bo Derek, je comprends qu'on veuille la filmer toute nue tout le temps. Bon, après, c'est vrai que le film est très limité. Hein, c'est quand même du nanar millésimé, il faut dire les choses, avec en plus beaucoup de moyens. Plus sérieusement, on découvre aussi une version de Tarzan, approuvée, hein, je valide ce message, le fameux, approuvé par Burroughs lui-même, hein, et qui avait choisi l'acteur, tout ça, parce qu'il n'était pas fan de Johnny Westmuller, en fait, Burroughs, alors que c'est sans doute la meilleure, en tout cas la plus célèbre incarnation de Tarzan à l'écran, la plus fidèle restant celle de Christophe Lambert en Lord Greystock, hein, beaucoup plus tardivement, d'ailleurs, c'est Christophe Lambert qui fait la couverture du livre, hein, de ce Tarzan homme sauvage. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des sous-thématiques que j'aime beaucoup. Il y a, par exemple, les Tarzanes. Hein, donc, il y a quelques films dont on a déjà parlé, d'ailleurs, dans Culture Prohibée, qui sont sortis chez Artus Film, là-dedans. Et puis, il y a un film, il y a China, là, la reine de la jungle, qui a enchanté notre adolescence, n'est-ce pas, Thomas? Et puis, avec Tania Roberts. Et puis, il y a l'incroyable... quand même La maîtresse des singes, un film que nous avions autrefois chroniqué dans un fantasticorama du temps où j'éditais des fanzines, et qui est quand même quelque chose, ce film. Il faut le voir pour le croire. Voilà, on n'en fait plus des films comme ça. Il y a les séries télé, il y a même les jeux vidéo. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais surtout, il y a aussi les autres Tarzan, des acteurs très intéressants, dont certains sont allés après faire une deuxième carrière du côté de Cinecittà. Je veux parler de Gordon Scott, ou Lex Barker, par exemple. Et puis, il y a, moi surtout, et ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'il y a un retour sur les BD Tarzan, parce que Tarzan est passé à la postérité grâce au film. C'est un mythe, hein, un mythe passionnant d'ailleurs, puisque Thomas se moquait un peu de moi en disant colonialiste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on revoit les films avec Westmuller, alors là, attention, halte au blackface, hein, parce que là, c'est la totale. Hein, c'est-à-dire qu'on a pris des nains pour faire les pygmées qu'on a grossièrement maquillés en noir. C'est vrai que c'est des films là ce coup-ci, ceux-là on les ferait plus aujourd'hui, mais c'est peut-être pas plus mal. Alors par contre, des films intéressants, par exemple dans le Tarzan avec Johnny Westmuller, là où il y a une scène très très érotique de nage sous-marine où Jane est nue, enfin c'est des trucs où on se dit comment ça a pu passer les fourches codines de la censure, quoi. Voilà, bon, c'était avant le code ICE, hein, donc mais quand même c'est assez impressionnant. Et il y a toute une partie BD, voilà, toute une partie BD, parce que c'est vraiment la BD et les strips, hein, qui paraissaient dans les journaux, qui a rendu en fait Tarzan célèbre. Il y a d'abord eu Al Foster, immense dessinateur, Et puis Harold Foster, pardon, immense dessinateur. Et puis surtout, il y a Byrne Hogarth. Byrne Hogarth, c'est vraiment celui qui a vraiment marqué les fans de bande dessinée. Il y a eu beaucoup d'intégrales republiées. Elles ne sont jamais allées au bout, ces intégrales. Donc ce serait bien qu'un éditeur se repenche sur le sujet. Mais enfin, voilà. Donc vous comprenez, vu ce que je vous raconte là, c'est que le livre est très complet. Il oublie aucun pan de ce qu'est le mythe tarzanesque, si j'ose m'exprimer ainsi. On peut le dire, c'est-à-dire que la synthèse de tout cela est assez réussie, malgré qu'il y ait plusieurs auteurs et tout. Et il y a un ton assez commun au texte, qui fait que le livre est assez homogène. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et vraiment, si vous êtes fan, comme moi, de ce mythe qui est Tarzan, et si, comme moi, vous aimez les films, malgré leurs défauts, mais aussi grâce à leur qualité, je vous conseille de vous précipiter sur Tarzan l'homme sauvage, actualité d'un mythe sous la direction de Jean-Pierre Andrebon, paru chez Vendémiaire. Spécial sortie bouquin. Et puis Tarzan, bon, c'était un homme sauvage, donc peut-être qu'il se serait intéressé, Tarzan, au petit traité d'écologie sauvage, puisque on va faire une transition un peu foireuse, donc j'ai le secret.
Petit traité d'écologie sauvage de Alessandro Pignocchi, ou Pignocchi selon qu'on prononce, est une super BD qui part d'un principe simple. C'est-à-dire que le monde occidental subit une sorte de révélation spirituelle où tout le monde commence à vivre comme les Indiens Chivaro, voire transforme totalement la cosmogonie et la façon dont on vit tous les jours. Et c'est un bouquin qui est hilarant et brillant d'une intelligence remarquable qui permet de transformer totalement la façon dont la société s'organise et réagit par rapport à tout ce qui l'entoure. Dedans, on va surtout trouver des petits sketchs qui sont hilarants et qui sont souvent réfléchis. On peut notamment voir les classes politiques être mises en avant dans cette société qui a changé. Nous avons notamment Manuel Valls se plaindre en direct sur une chaîne télé de pas pouvoir avoir eu une double nationalité pour aller au Brésil et voir la variété de colibris qu'ils ont, ou encore Merkel imposer le troc comme seule monnaie d'échange en Allemagne, ou encore voir un Indien Chivaro ethnologue se faire traiter de nazi tout simplement parce qu'il milite contre la fermeture des derniers abattoirs en France, en Normandie. L'un des points qui est absolument génial et que j'aime beaucoup, c'est l'idée de la réincarnation et de la vengeance. L'un des meilleurs animaux qui apparaît dans ce petit traité reste les mésanges, qui sont généralement des personnes qui sont fait tuer et qui sont réincarnées en mésanges. Et les mésanges ont des tendances totalement anarchiques et punk. Spéciale dédicace notamment dans le tome suivant, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul et heureusement, où ces dernières, lors des élections politiques, décident de picorer à mort Fillon pour éviter qu'il se présente. Dans le bouquin, on retrouve des dessins assez schématique, fait à l'aquarelle, mais qui retransmet bien ce que veut faire passer l'auteur. En soi, c'est un bijou avec un épilogue scientifique qui explique la méthodologie remplie de sagesse et d'ouverture.
Sagesse, ouverture, tout ce qui me caractérise et tout ce qui caractérise un autre mythe. Enfin, ouverture, peut-être pas, ça dépend... Ça dépend de quelques critères. Après Tarzan, je vous ai parlé de Tarzan, c'est quand même un mythe. Je vais vous parler du Big Boss en termes de mythologie quand même. Hein. Voilà, celui qui a inspiré nombre de bouquins, le Big Boss, Jesus. Voilà, le fameux Jesus. Voilà. Alors, c'est pas vraiment Jésus en fait. Hein. Surtout, on va parler de la notion de miracle religieux à l'écran. Sujet pas simple du tout, auquel Timothée Gérardin, a décidé de consacrer un ouvrage qui s'appelle Cinémiracle, au pluriel donc, en un seul mot, Cinémiracle, l'émerveillement religieux à l'écran, et c'est paru chez Playlist Society. Comme je vous le disais, la tâche n'est pas simple. Et Timothée Gérardin, je trouve que il s'en sort plutôt bien, parce que traiter de ce sujet. Méliès, on s'empare du sujet. Il y a beaucoup de cinéastes qui se sont emparés. Alors, il y a des fresques hollywoodiennes. On pense évidemment à la mer qui s'ouvre, voilà, aux 10 commandements, au Cécile B2000. Il y a aussi Ben-Hur de William Wyler, qui est quand même un film très porté sur la religion. On rappelle quand même que, d'ailleurs, au sujet de ce film, hein, que Burt Lancaster avait dit niet à ce film. Hein. Il le considérait, lui, comme beaucoup trop prosélyte. J'ai envie de dire bravo Burt, voilà, parce que je n'aime pas beaucoup ce film en fait de Wyler. Là, Timothée Gérardin, il ouvre son livre. Alors, il y a une petite citation de Romer, mais surtout, le prologue du livre cite Jean Epstein, qui dit donc la plus grande joie du cinéma est de nous faire découvrir inopinément, comme pour la première fois, toute chose sous leur angle divin. Donc là, évidemment, on est sur l'aspect miraculeux du cinéma en soi, hein, voilà, qui est un miracle hein, quand le cinéma apparaît. D'où le titre de l'ouvrage, Cinémiracle, hein, qui est en fait, le Cinémiracle, c'était un format de projection en écran large qui a été inventé dans les années 50. Et le miracle, pour l'auteur, hein, selon l'auteur, il se conçoit comme une rupture dans le récit. Donc à partir de là, de ce postulat, il construit toute une analyse dans laquelle on va retrouver plein de films différents, hein, tout un travail d'analyse qui va du grand classique au film parfois un peu plus ardu. Alors le grand classique, je sais pas, le procès Jeanne d'Arc de Bresson par exemple, au film un peu plus ardu, je pense à cette vision marxiste du Christ, l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, hein, qui est un peu vieilli quand même, on en avait parlé dans l'émission. Et puis alors il passe par des choses plus inattendues, je pense à Ace Ventura, et puis Fou d'Irène, par exemple, qui sont abordés aussi dans le livre. Mais c'est très juste, en fait. Hein, leur place est tout à fait justifiée. Et bon, il faut lire le livre pour découvrir exactement pourquoi c'est justifié. Alors, l'auteur conclut son livre sur la notion mouvante qui caractérise un miracle. Notion mouvante qu'il a réussi quand même à saisir par bribes et le temps d'un essai riche et très pertinent dont je vous conseille la lecture. Donc c'est Cinémiracle, l'émerveillement religieux à l'écran. C'est écrit par Timothée Gérardin et c'est paru chez Playlist Society. assez de livres, mais que du texte, bon sang de bois. Passons à la bande dessinée, non mais, et surtout, voilà, ce qu'on adore, nous, dans Culture Prohibée, les comics, n'est-ce pas, mon cher Damien ?
Eh oui, comment faire une émission de bouquins sans que je vous parle des comics, d'Urban Comics ? Désolé. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Donc, avant les vacances, Urban Comics a sorti une excellente édition à 4,90 dans laquelle il résumait plusieurs arcs narratifs en entier. On retrouve notamment la cour des hiboux de Scott Snyder et de Greg Capullo, ou encore le Red Sun de Millar. On peut également trouver le Injustice de Tom Taylor qui est ressorti. Et donc, parmi les bouquins qui me manquaient, j'ai pu compléter ma collection avec notamment Wonder Woman année 1 de Greg Rucka et de Nicolas Scott. C'est une série... C'est un arc narratif qui est assez récent vu qu'il apparaît en même temps que l'émergence de l'arc Rebirth chez DC qui tourne autour des années 2015. Et c'est un tome 1 sur Wonder Woman que j'ai trouvé passionnant. On suit ses débuts et finalement les espoirs qu'elle apporte dans ce nouveau monde. Le début est excellent où en fait on a la vie de Wonder Woman et de Steve Trevor qui sont mis au parallèle et qui permet de nous montrer que c'est deux personnages qui finalement cherchent un peu la même chose dans leur vie. Contrairement aux autres créations Origin Story de Wonder Woman, celle-ci est légèrement différente, même si je suis en désaccord avec, j'ai beaucoup aimé l'œuvre. Et l'intrigue dans cette nouvelle ère de représentativité fait que la plupart des personnages que Wonder Woman affronte se centrent sur des personnages féminins, y compris dans ses alliés et dans ses ennemis. Et en fait, l'ensemble a une cohérence qui est absolument géniale. Et la grande force de ce bouquin, à mes yeux et pour mon développement personnel, c'est qu'il m'a fait aimer une rivale de Wonder Woman qui s'appelle Cheetah et qui, pour moi, a beaucoup de talent et énormément de qualité en tant que personnage féminin. Mais ma grande lecture de cet été, ça a été de rattraper mes retards sur un autre ouvrage de Urban Comics qui sont les DC's. Enfin, DC's. Selon la façon dont vous arrivez à le prononcer. This Is est un ouvrage de Tom Taylor, donc celui qui a fait Injustice, le comics, ainsi que sa suite. Et This Is nous raconte l'histoire de Darkseid qui parvient à créer l'équation d'anti-vie en utilisant Cyborg sur Apocalypse. Cependant, Cyborg parvient à s'échapper et retourne sur Terre. Et pile au moment où Cyborg retourne sur Terre, son système se connecte à Internet, ce qui fait que le virus d'antivie se propage à travers tout ce qui est connecté à Internet. Ce qui fait que n'importe qui qui regarde un écran se retrouve immédiatement infecté et devient un zombie en quête de tuerie. L'une des grandes forces de ce comic, c'est que Tom Taylor, à travers ça, voulait parler du fait qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il était très facile de s'en prendre à quelqu'un sur Internet et que les mouvements de masse qui suivaient derrière pouvaient totalement détruire la carrière d'une personne, qu'elle soit justifiée ou non. L'une des autres grandes forces qu'on reconnaît à Tom Taylor, c'est sa capacité à s'en prendre aux personnages les plus iconiques et à les tuer. Et ici, dès le premier chapitre, il élimine tous les personnages qui pourraient tenter de sauver l'humanité très rapidement. Ce qui fait qu'au final, ce qui nous reste, ce sont les seconds couteaux, et c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans son œuvre. Tous les personnages qu'on considère généralement comme secondaires dans l'univers DC deviennent finalement ses sauveurs. Et c'est très appréciable de voir des personnages totalement oubliés remis en avant comme Booster Gold ou encore Blue Beetle. Ici, ce que je voulais vous parler, c'est surtout de la suite DC Unkillable, qui, contrairement au premier ouvrage qui se concentre sur les héros de la Justice League, ici, on essaye de voir comment les vilains survivent finalement à cette catastrophe. Les deux ouvrages se passent en même temps, même si, par rapport à l'un et à l'autre, il y a quelques incohérences qui ressurgissent. Ici, le bouquin est toujours bon, et là où les héros faisaient tout pour protéger le monde qu'ils entouraient, nous voyons les méchants qui essayent avant tout de se protéger et du coup de créer des alliances pour leur propre survie. Des alliances qui, au final, s'avèrent étranges, mais cohérente et remplie de plaisirs coupables. Au niveau des dessins, le style de DC possède une identité propre et en fait, ils n'ont pas changé vraiment d'illustrateur entre les comics, ce qui fait que l'identité stylistique reste la même. Ce bouquin est une réussite, comme à peu près tous les projets de Tom Taylor au niveau des comics en ce moment, et c'est pour ça que je reste surpris par le fait que lui, qu'on vient de mettre derrière Suicide Squad, voit sa série annulée vu qu'il fait partie des coupes budgétaires de la divine concurrente.
Après les super-héros, je vais me tourner vers un super-vilain. Vers un super-vilain qui, chaque nuit de pleine lune, se transforme en loup-garou, le loup-garou Picard. Mon ami Thomas Roland qui est venu avec, sous le bras, dans sa besace, la deuxième salve de Gore des Alpes. Je nous avais déjà parlé de la première salve, de ce nouvel éditeur suisse, hein, c'est pas longtemps qu'il existe. Et là, il vient de refaire paraître 3 nouveaux numéros dans sa collection Gore des Alpes.
Eh oui, messieurs, l'heure est grave. On nous l'avait prédit meurtrière, et effectivement, elle est meurtrière. La deuxième vague. La deuxième vague des Gore des Alpes, elle est sanglante et ça tombe comme à Gravelot. On commence avec le roman de Stéphanie Glacé, Les Ventreuses. Les Ventreuses qui met en scène Marie-Ange, qui est une faiseuse d'anges, voilà. Au village, elle avorte dans la clandestinité les femmes en difficulté, celles qui ont été violées, qui se retrouvent malencontreusement enceintes, par conséquence. Elle connaît tous les secrets du village, jusqu'au jour où elle va devenir le bouc émissaire idéal. Accusée de commerce avec le démon et d'être une sorcière, Marie-Ange va donc s'enfuir et pactiser avec le diable. Tant qu'à faire, hein, autant contenter ses détracteurs, hein. Elle devient alors une avorteuse itinérante qui vient toujours en aide aux femmes en difficulté, à celles qui subissent le joug d'un patron libidineux, sans oublier de leur faire subir un sort à ces violeurs, mais aussi aux parents adoptifs qui traitent mal les enfants. Stéphanie Schwitter-Glacé découvre, dans l'atmosphère bucolique d'un petit village des montagnes, l'amour de la nature à des livres, ainsi que la passion de la rencontre et de la découverte de l'autre. Elle vit actuellement à Sion, où elle exerce les métiers de thérapeute et d'enseignante. J'espère pour les élèves que l'enseignante n'a rien à voir avec le personnage principal du roman, qui se révèle particulièrement violent et gore. Stéphanie Glacé signe une œuvre qui dénonce avec virulence le patriarcat, les viols, les agressions, les abus d'autorité. Elle décrit des mœurs d'un autre temps, une société dans laquelle les femmes sont traitées comme de simples reproductrices ou objets de plaisir. À de la maltraitance, les perpétrateurs vont en goûter. Les agressions subies par les femmes et les enfants sont révoltantes et c'est avec une certaine jubilation qu'on peut lire le sort que leur réservent Marie-Ange et ses compagnons de démons. Tout cela écrit sur un ton des plus sérieux, l'humour ayant peu sa place dans ce texte batailleur qui mérite bien son appartenance à la collection Gore des Alpes. On dit qu'il faut éduquer les hommes assez tôt à la façon dont on peut traiter les femmes, et donc j'ai demandé à Stéphanie Glacé si son roman peut être considéré comme un... va être en direction des élèves comme un manuel scolaire.
Si c'était de ma simple volonté, peut-être, ça serait une idée intéressante. Mais ben là, je pense que pour le moment, il se destine quand même à un public un peu plus âgé.
Stéphanie Glacé, comment passe-t-on du métier d'institutrice à un roman comme Les Ventreuses?
Peut-être par besoin d'explorer certaines ombres. Pour mon premier roman, j'avais fait beaucoup de recherches et puis j'avais trouvé beaucoup de choses assez terribles que j'avais naturellement dû édulcorer pour un roman tout public. Et donc, avec Le Gore des Alpes, il y avait la possibilité de donner la pleine place à toutes ces ombres que j'avais découvertes. C'était une belle occasion à saisir.
Pour toi, la littérature gore, qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente surtout une occasion, comme une porte ouverte ou une possibilité qui est offerte de dire ce qu'il y a à dire sans devoir édulcorer, sans devoir se dire pour que le public puisse accepter cette réalité, je dois le dire avec d'autres mots ou l'atténuer. Donc c'est vraiment comme une invitation à quelque chose de plus franc.
Écoutez Stéphanie Glacé, auteur de Les Ventreuses, paru chez Gore des Alpes, au micro de Culture Prohibée.
Bon, à la lecture de Les Ventreuses, c'est quand même un roman qui est quand même assez dur. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait des recherches. Et donc, tout ce que tu racontes, bon, mis à part peut-être les éléments surnaturels, donc c'est basé sur des faits historiques que tu as pu récolter un peu à droite à gauche.
Alors, tout à fait. Je n'ai même pas eu besoin d'aller très loin à droite à gauche. Vraiment, on va se concentrer sur l'histoire des faiseuses d'anges, des avortements, des chapelles à répit en Valais. C'est des choses qu'on a encore très proches de nous et dont on a même encore certains témoins vivants. Et donc vraiment, il n'y a rien d'inventé. Tout est du réel et pour une fois, du réel retranscrit comme du réel.
Pourquoi raconter cette histoire justement ? Qu'est-ce qui t'a motivé à raconter cette histoire et à prendre cet angle fantastique ?
C'est qu'en fait, quand on découvre ce genre de choses, alors il y a un intérêt pour moi immédiat qui vient de se dire « Waouh ! Ça se passe vraiment, ça se passe vraiment, ça a existé. » Et puis tu me demandais tout à l'heure ce que c'est la littérature gore. C'est que moi je suis thérapeute aussi dans mon autre partie de travail et très souvent la vie des gens est nettement pire que ce qu'on pourrait faire dans un roman. En fait, ce qui est vrai n'est souvent pas vraisemblable. Et quand on écrit, il faut toujours un peu atténuer, un peu édulcorer pour que ça aille l'air vrai. Et la littérature gore, ce qu'elle offre, c'est cette possibilité d'y aller assez directement avec une forme d'authenticité. Et du coup, moi j'avais très envie de donner à connaître, à découvrir, à savoir, à apprendre ou à relire ces réalités. Et puis ensuite, de ne pas laisser le lecteur ou la lectrice dans une forme d'impuissance. On se dit mais ces horreurs ont vraiment été perpétrées, ces choses se sont passées. Simplement en devenir le dépositaire ou le témoin, pour moi ça crée plus de colère et plus d'impuissance. Et c'est là que la possibilité de recourir à des démons, à de la science-fiction, à un univers comme ça, elle permet une forme de catharsis ou de réparation ou de rééquilibrage qui est très agréable en fait, pour l'auteur comme pour le lecteur.
On peut dire que Les Ventreuses est quand même une œuvre, on va dire, engagée, voire peut-être même militante, qui se révèle encore beaucoup d'actualité.
Oui, tout à fait. Alors, engagée ou militante, évidemment, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut ne pas être engagée ou militant une fois qu'on a conscience des choses ? La question est peut-être ouverte, moi j'ai l'impression que non, mais tout à fait. En tout cas, ça se révèle d'actualité à plusieurs égards, et puis simplement dans l'information qui est donnée aussi. Ce qui est amusant, c'est que j'ai remarqué que mes lecteurs masculins, ce qui leur paraissait gore, c'était la première partie, qui est en fait basée sur des descriptions de choses réel que les femmes peuvent vivre. Alors ça se passe plus avec des aiguilles, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus doux, de plus agréable. Et la lectrice féminine était plus heurtée par la deuxième partie où il y a le recours à la science-fiction, un peu, à quelque chose de fantastique du moins. Et c'était amusant de découvrir ça.
Je trouve que dans le livre, ce qui est le plus dur, c'est la deuxième partie avec cette histoire de jeune femme qui se met au service d'un bourgeois là et qui subit des... Ouais. Qui subit des violences, ainsi que ses enfants aussi, d'ailleurs. Je trouve que c'est ce qui est le plus dur dans le roman, moi.
Alors ça, c'est effectivement une réalité terrible. C'est la thématique du deuxième roman que je suis en train d'écrire actuellement. Et c'est effectivement cette thématique des enfants placés, hein, ou sous couvert de protéger la société, protéger les enfants de parents qui étaient peut-être parfois simplement taxés de fainéantise, hein, mais c'était un vrai mal vu par la société de l'époque. Ou de mères qui n'arrivaient pas à élever leurs enfants seuls, les enfants étaient pris et puis mis dans des familles qui étaient censées leur inculquer les valeurs du travail, de la résistance, de l'engagement pour les protéger de ce que leurs parents auraient pu leur donner comme valeurs divergentes. Et en fait, qui étaient des enfants qui subissaient des abus, en tout cas psychologiques, mais très souvent physiques et sexuels. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des pages sombres.
Et ça, ce sont des choses que tu as trouvées dans des archives
Oui, alors ça a été assez long, enfin, ça s'est passé jusque tard. Hein. Pour pouvoir entrer dans des commissions liées à l'Union européenne, la Suisse a dû changer certaines lois, mais très tard, qui ont fait que ce qui permettait ces placements forcés sans passer par un jugement complet a plus été permis. Et donc c'est des victimes qui sont encore vivantes aujourd'hui et qui ont mis beaucoup de temps à en fait oser se dire que c'était pas normal ce qu'elles avaient vécu. Et là, il y a enfin un fonds qui a été créé, une réparation qui a été demandée. L'État a accordé de l'argent pour au moins reconnaître que souvent, ces enfants placés qui ont tellement souffert, ils n'ont pas pu après se lancer dans la vie avec aucun bagage, en fait. Donc, des gens qui, encore aujourd'hui, ont des situations financières très précaires et qui témoignent de manière magnifique de ce qu'ils ont vécu. Donc, effectivement, moi, j'ai pu rencontrer pas mal de gens, lire beaucoup d'archives, avoir aussi des témoignages en vidéo. Et c'est vraiment des réalités poignantes.
Et c'est une réalité qui était si fréquente que ça ?
Oui, oui, oui. Alors vraiment, que ce soit dans les villages, dans les villes, c'est vraiment quelque chose de... Ben, en fait, il y avait une forme de, comment dire, de milice populaire aussi. Si les voisins d'à côté voyaient quelque chose se passer dans, dans la famille voisine et qu'ils voyaient des enfants qui étaient souvent seuls, ils pensaient faire pour le mieux en les signalant ou dénonçant selon d'où on se place à la commune. Et puis après, la commune était responsable en fait de ces familles pauvres. Et donc, il y avait même une pratique qui s'appelait les enfants misés, où en fait, on mettait à l'enchère à la famille qui demandait le moins pour accueillir les enfants chez eux. Et c'était quelque chose de très fréquent.
Donc, Les Ventreuses aussi, Stéphanie Glacé, c'est aussi un livre qui est aussi un roman social, un roman politique et social, qui parle des différences de classe sociale aussi.
Alors, j'espère, ouais. Oui, j'espère que c'est des choses dont on peut se rendre compte. Moi, je pense que beaucoup de mal qui est encore fait aujourd'hui vient d'un manque simplement de conscience. Je pense pas que souvent on décide de faire le mal en toute conscience volontairement, mais simplement on connaît pas les choses et du coup on manque beaucoup de compassion, d'attention, d'humilité. Et c'est vrai que si l'écriture permet d'attirer l'attention sur tout ça et d'amener un peu de conscience, ben on contribue à faire évoluer les choses, à mon sens.
Mais ce qui est quand même perturbant aussi dans le livre, c'est que tu associes les forces du mal à une sorte de, une forme de libération des femmes.
Oui. Alors, c'était la grande question, en fait. C'était évidemment, on a vu tout ça. Comment chercher l'équilibre ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'espoir qu'on trouve cet équilibre autrement. Peut-être justement par une guérison de toutes ces minorités qui ont été tellement ravalé ou tellement blessé et que la guérison de la parole des femmes, certaines libérations, la prise au sérieux de certains thèmes qui ont été tellement moqués pendant longtemps, permet un rééquilibrage qui va se passer, peut-être pas dans la douceur, mais en tout cas pas dans la violence. C'est vrai que pour moi, la grosse question dans le livre, c'était comment utiliser le gore pour ramener une forme d'équilibre. Et du coup, il y avait ce bouleversement de dire finalement, le mal n'est pas là où on croit, il est plus dans l'inertie de ceux qui savent et qui disent rien, et peut-être que le recours à ces forces diaboliques permet de ramener quelque chose. Mais l'héroïne elle-même, elle se demande, dès qu'elle est trop dans son humanité, elle se dit que ce n'est pas possible de considérer que ces violences-là ramènent l'équilibre. Et puis, par moments, elle quitte un peu ses questions morales pour aller dans l'action. Mais c'est vrai que c'était perturbant pour moi aussi de prendre cette option-là.
Et tu penses que la littérature peut changer quelque chose par rapport à ce que tu écris, peut avoir un impact ?
Alors, j'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée. Je pense qu'en découvrant, en lisant, en apprenant, déjà on gagne en humilité. On devient... Souvent les gens manquent de compassion simplement parce qu'ils n'ont jamais appartenu à aucune minorité. Et donc ils n'ont aucune idée de ce que ça peut faire quand chaque fois qu'on se présente à quelqu'un, il y a déjà des choses à excuser, à demander, à justifier, à prier pour juste pouvoir exister tel qu'on est. Et donc moi je suis persuadée que c'est par l'éducation, entre guillemets, par la découverte, que les choses peuvent évoluer et les mentalités s'assouplir en tout cas.
Children, and you know that they're
On s'éloigne un peu de la littérature avec Vengeance. Je n'ai pas un cheveu sur la langue, le roman, enfin c'est pas un roman, le livre s'appelle bien Vengeance et c'est une bande dessinée de François Marais qui lui est dessinateur scénariste de bande dessinée, illustrateur et enseignant. Décidément en Suisse, les enseignants ont d'étranges hobbies. Hein. Oui, chez François Marais, Vengeance donc s'écrit avec un Z parce qu'un homme bien décidé à châtier ceux qui s'en sont pris à sa Christine fait en sorte que les habitants de Martigny soient transformés en zombies. Ils étaient venus à un banquet pour saluer Christian, une célébrité locale détenteur d'un club de foot. Alors la plèbe zombiesque va se répandre jusqu'à Sion où va se jouer un match opposant le club de Sion à un autre. Vengeance s'avère aussi drôle que gore, même s'il s'agit d'une BD en noir et blanc. Peut-être aussi parce qu'il s'agit d'humour noir. Impossible de ne pas penser à Idée Noire de Franquin devant ses personnages très simples, ses situations aussi improbables que drôles, cet humour mordant et ses sons gore. François Marais prend un malin plaisir à égratigner les présidents du club de foot, les militaires, les chaînes d'information en direct, le machisme, et c'est très très drôle. Le trait est énergique et précis, le découpage se rapproche du découpage cinématographique. François Marais se garde bien de toute approche méta du genre, comme beaucoup ont plutôt tendance à faire ces derniers temps. Non, il s'agit d'une véritable histoire de zombies avec de l'humour très noir et même avec des choses que le cinéma ne s'autorise plus en ces temps où le puritanisme semble dicter sa loi chez les créateurs. Seulement ici, on est dans la collection Gore des Alpes et tout y est autorisé. Et c'est avec une certaine jubilation qu'on peut voir toutes sortes d'individus se faire démembrer, éviscérer, étriper et finalement bouffer. On retourne à la littérature. Et après ces deux romans, on se côtoie joyeusement le fantastique et le gore avec nombre de jets de fluides divers et variés. On change de registre avec le dernier arrivé de la collection, Tantine Chevrotine. Un premier roman signé Jordi Gabillou. Dépeint comme le premier mafia raclette sur la quatrième couverture, Tantine Chevrotine n'est pas fantastique. Son décor, un petit village de montagne sous la neige, est plus un western européen qu'une histoire de mafia. Jordi Gabillou, donc c'est son premier roman. Jordi Gabillou, c'est un amoureux de la littérature et il anime d'ailleurs une chaîne YouTube, Le Marque-Page, où il parle beaucoup de littérature et un petit peu de cinéma. Il a aussi joué dans un court-métrage, la télécommande de Johan Ruff. Bon, j'ai pas réussi à le trouver. Mais bon, en plus, il n'y a pas de date sur le site. Je ne sais pas de quand date ce film. Donc, la télécommande. Et ce roman, en fait, s'attache à dépeindre deux clans dans un petit village de montagne. Deux clans, des petits vieux. Enfin, c'est une petite vieille qui se retrouve toute seule contre un clan d'autres petits vieux et ses enfants. Voilà. Et elle va devoir se démerder pour se défendre, pour soi-disant une vieille vengeance, une vieille histoire. Ils veulent se venger d'une vieille histoire d'un clan particulièrement méchant et cruel qui fait sa loi dans ce petit village. Et elle va devoir se défendre presque toute seule. Face à eux. Et là, c'est une avalanche de sang et de tripes qui va se déverser sur ce petit village, soi-disant bien tranquille. Le roman écrit sur le ton du désabusé de la vieillesse. Hein. C'est très, très drôle. On s'amuse beaucoup et c'est effectivement extrêmement gore. Nous allons écouter Jordi Gabillou qui va nous parler un peu de la genèse de son roman « Tantine Chevrotine ». Jordi Gabillou, vous êtes un lettré. Que pouvez-vous nous dire sur vos influences et vos références en littérature ?
Alors, mes influences et références, elles sont assez multiples. Elles viennent effectivement un peu de la littérature, mais pour ce livre, Tantine Chevrotine, elles viennent aussi beaucoup du cinéma, cinéma de genre, notamment les frères Cohen, etc. Étant donné que, quand on m'a demandé d'écrire du gore, je ne savais pas trop quoi écrire exactement, comment l'écrire. Et j'ai trouvé la solution en fait en cherchant à écrire du gore qui soit drôle, qui soit justifié par le gag, par l'humour noir, très noir même par moments. Et c'est quelque chose donc qui venait beaucoup plus du cinéma que de la littérature, mine de rien, étant donné qu'en littérature, à part Weston Ellis avec son American Psycho par exemple, j'avais peu de références de ce côté-là et c'est pas des références que je trouvais très drôles.
Pourquoi un premier roman dans la collection Gore des Alpes ?
Alors, c'est mon premier roman, et avant ça, j'avais écrit une pièce de théâtre, Les Passagers, publiée aux éditions La Puce, et je l'ai écrit parce qu'on m'en a donné la possibilité déjà, et que l'exercice avait l'air assez amusant, mine de rien. C'était une sorte de challenge, et ayant moi-même grandi beaucoup en montagne, donc dans les Alpes et ça, le thème me parlait beaucoup.
Vous dites avoir vécu en montagne et donc ce que vous décrivez dans le roman, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vivre ou constater ? Bon, peut-être pas forcément au même degré, mais bon.
Alors, c'est quelque chose qu'on constate pas mal, oui, je pense, dans les petits villages, peut-être un peu moins explicitement, mais systématiquement, il y a des guerres entre les familles, il y a des guerres entre certains individus, il y a des espèces de petits clans informels qui peuvent être formés. Et heureusement, très souvent, ça ne dégénère pas à ce point-là, et heureusement.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère, cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Vous écoutez Jordi Gamiou, auteur de Tantine Chevrotine, paru chez Gore des Alpes, au micro de Culture Prohibée.
Le quatrième de couverture annonce un mafia raclette, mais à la lecture du roman, je pense plutôt à ces westerns européens, comme Le Grand Silence, bien sûr, il y a La Neige qui me fait beaucoup penser à ça, donc je pense plutôt aux westerns européens.
Oui, c'est vrai. Alors, il peut y avoir du western, il peut y avoir sur la scène de fin du Chambara aussi, c'est un peu inspiré peut-être Kurosawa. Jamais non plus trop explicitement. Souvent, je trouve les références après avoir écrit à me dire tiens, mais ça, ça me refait penser à tel film ou tel élément, etc. Mais effectivement, ça va au-delà du mafia raclette, j'espère bien, étant donné qu'en plus, il ne mange aucune raclette durant tout le livre, malheureusement.
Pour vous, le gore, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le gore, c'est un outil, et après, ça dépend beaucoup ce qu'on en fait. J'ai pas mal de peine avec le gore purement gratuit, beaucoup plus de facilité avec le gore qui est drôle, le gore qui essaye de déboucher sur autre chose, et puis c'est aussi souvent un outil de métaphore pour désigner la violence que peuvent ressentir certains personnages, etc. C'est aussi un défouloir souvent, quand un personnage nous a bien énervé, et ça c'est à peu près pareil pour tout le monde, il y a une catharsis, on a envie qu'il paye la manière la plus horrible possible. Et ça peut aussi être un retournement justement de ce phénomène où on peut en vouloir beaucoup à des personnages et puis ils commencent à souffrir, on est content. Puis plus ils souffrent, plus on se dit « Ah mais finalement, j'avais pas envie qu'ils souffrent autant ». Et à retourner du coup un peu cet élément, donc c'est un outil qui permet de faire plein de trucs et ça le rend très intéressant.
Oui, parce que vous ne ménagez pas vraiment vos personnages. Hein.
Ah non, il faut pas. Bon, ils ont beaucoup vécu, ils pourraient vivre effectivement un peu plus calmement. Mais on est dans une époque où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres types de personnes qui n'ont pas été beaucoup représentées dans la littérature, dans la fiction en général. Et les vieux en font partie, donc c'est bien que les vieux reviennent un peu sur le devant de la scène, agissent, se battent, prennent des coups et montrent que bien qu'ils soient vieux, ils ont encore pas mal de choses à vivre et à raconter.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.